VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Libye, les forces appuyant le GNA, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, ont chassé aujourd'hui de leur quartier général à Tripoli les groupes armés rivaux, fidèles à Khalifa Weil, l'ancien chef d'un gouvernement non reconnu, écarté du pouvoir en avril 2016 après la formation du GNA. La prise du palais des hôtes, le complexe faisant office de quartier général à ses groupes rivaux, fait suite à de violents combats à l'arme lourde qui avaient commencé hier et ont continué en début de journée ce mercredi. Khalifa Weil, qui avait multiplié les gestes de défiance à l'encontre du GNA, est appuyé par des milices de sa ville natale de Misrata, dans l'ouest du pays, ainsi que par d'autres groupes à Tripoli, basés notamment dans le sud de la capitale. Le GNA n'a fait pour le moment aucun commentaire sur l'assaut donné au quartier général de M. Weil. Au Nigeria, 4 adolescentes ont tué 2 personnes et blessé 16 autres lorsque leurs ceintures d'explosifs ont été activées à Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. Les jeunes filles ont frappé à la porte d'un logement avant de déclencher leurs explosifs. Ces attaques contre des habitations individuelles s'inscrivent dans une nouvelle stratégie développée par le groupe islamiste Boko Haram dans sa lutte contre le pouvoir central nigérian. L'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, a pris sa nouvelle fonction de président de la Commission de l'Union africaine hier, promettant de réformer l'institution et de s'attaquer aux nombreuses crises du continent africain. Le Tchadien, âgé de 56 ans, a été élu en janvier après avoir été, depuis 2008, le chef de la diplomatie du Tchad, pays allié de l'Occident dans la lutte anti-djihadiste, et un fidèle du président tchadien Idriss Déby Itno. L'analyse de Michael Didama, directeur de publication du journal tchadien Le Temps, sur l'accession de Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine.
Il ne faut pas perdre de vue que Moussa Faki est le candidat du Tchad et surtout du président Idriss Déby, qui a toujours dénoncé au plus fort moment de la lutte de l'OTAN contre Gaddafi, il a toujours dénoncé cette inaction de l'Union africaine et surtout cette ingérence des Occidentaux sur les questions africaines. Et je pense que Moussa Faki est sur cette ligne et il doit effectivement chercher à donner ses lettres de noblesse à l'Union africaine qui souvent a été mise de côté et qui fait quelquefois de faire valoir. Et il est temps que l'Union africaine occupe la place qu'il lui faut, surtout quand il s'agit de l'Afrique. Il est important que l'Union africaine soit en tête et que le point de l'Union africaine prime. Et quand je dis prime, cela ne doit pas aussi être le point de ceux qui oppriment leur peuple. Ça, ce sont des questions assez importantes. On sait qu'en Afrique, il y a des pays qui ont fait des avancées importantes en matière de démocratie, d'autres qui n'ont pas tout bougé, d'autres aussi qui ont des chefs d'État qui ne se soucient pas souvent du bien-être de leur peuple. Donc tout cela doit être pris en compte par Moussa Faki parce que les Africains ont changé, le monde a changé et l'Afrique, les Africains aussi doivent changer et les Africains doivent prendre en main le destin de leur continent.
Michael Didama, directeur de publication du journal tchadien Le Temps. En Gambie, c'est en rang dispersé que la coalition au pouvoir ira aux législatives du mois prochain. Un revers pour le nouveau président Abama Barrow au moment où il met en œuvre des réformes. Michel Joseph.
Après sa victoire à l'arraché face à l'ancien président Yahya Jammeh, le président Barrow avait promis que sa coalition continuerait de gouverner comme une famille. Toutefois, des documents publiés cette semaine par la Commission électorale gambienne montrent que 239 candidats représentant 9 partis brigueront des sièges à l'Assemblée nationale le mois prochain. 6 de ces partis avaient uni leurs forces pour soutenir le président Barrow et mettre fin à 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh. Selon une source, le désaccord est au sein de la coalition, né des questions de représentation et de répartition des sièges. Sous Jammeh, l'Assemblée nationale n'était qu'une simple caisse de résonance des décisions de l'exécutif. Le nouveau président a promis de collaborer étroitement avec les législateurs, notamment sur les réformes constitutionnelles. Toutefois, l'éclatement de sa coalition pourrait redonner du tonus à l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction. L'ancien parti au pouvoir, qui demeure une force politique en Gambie, malgré le départ en exil de son fondateur, Jammeh.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme saluent l'extradition dimanche d'Aboubacar Toumba Diakité, ex-aide de camp de l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara, accusé dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. La répression d'une manifestation de l'opposition guinéenne avait alors fait 157 morts et plus de 100 femmes avaient été violées selon l'ONU. François Patuel, spécialiste de la Guinée à Amnesty International, espère que la décision du Sénégal d'extrader Toumba Diakité est un pas important vers la vérité dans cette affaire.
Toumba Diakité, qui était le chef de la garde présidentielle, le chef des Pérés Rouges, au moment du massacre du 28 septembre, a été extradé le 12 mars vers la Guinée. Pour Amnesty International, c'est un grand pas pour la justice en Guinée. Maintenant, on dit également que c'est le moment pour les autorités guinéennes d'organiser un procès pour l'affaire du 28 septembre, un procès qui répond également aux standards internationaux en matière de procès équitable.
La CPI a aussi ouvert un examen préliminaire sur les massacres du 28 septembre. Faut-il privilégier la justice guinéenne ou la justice internationale dans cette affaire?
C'est le principe de complémentarité qui s'applique dans l'affaire du 28 septembre. Donc, je pense qu'il y a cet effort déjà des autorités guinéennes d'organiser un procès. C'est une procédure qui est longue. Hein. Le massacre a eu lieu le 28 septembre 2009. Il y a eu plus de 150 personnes qui ont été tuées, une centaine de femmes violées et plus de 1500 blessées. Et depuis, les victimes et leurs familles demandent la justice. Les dossiers avancent très lentement au regard de la justice guinéenne. Il y a 14 personnes qui ont été inculpées. Il y en a encore qui sont, pour vous dire, dans des positions de responsabilité aujourd'hui en Guinée. Il y a Moussa Dadis Camara qui est également au Burkina Faso depuis le massacre du 28 septembre. Donc les choses avancent lentement. On espère que l'extradition de Toumba Diakité va accélérer le processus.
Vous pensez que Toumba Diakité pourra bénéficier d'un procès équitable en Guinée?
Les autorités guinéennes ont donné toutes les assurances que, à la fois, sa sécurité serait assurée en Guinée. Ils ont également à plusieurs reprises insisté sur le fait qu'ils allaient organiser un procès équitable qui répond aux standards internationaux. Maintenant, ce qu'on les engage à faire, c'est d'organiser ce procès dans les plus brefs délais. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si oui ou non le procès serait équitable. Il faut tenir les autorités guinéennes face à leur engagement et il faut qu'elles tiennent maintenant cet engagement dans les plus brefs délais pour les victimes du massacre du 28 septembre et pour leurs familles.
Toumba n'est pas le seul mis en cause et le cas d'Addis Camara. Est-ce que vous pensez que l'ex-chef de la junte devrait répondre à la justice de son pays?
Il y a 14 personnes qui ont été inculpées dans l'affaire du 28 septembre, dont l'ancien président d'Addis Camara. Il y a encore des gens aujourd'hui dans des positions officielles en Guinée qui sont mis en cause dans le dossier du 28 septembre. Très inquiétant, on s'inquiète du fait qu'il pourrait ralentir par exemple la procédure. Donc il faut aussi que ces personnes-là soient mis par exemple en congé administratif pour s'assurer qu'ils n'influencent pas de manière négative la procédure qui est engagée pour l'affaire du 28 septembre.
François Patuel d'Amnesty International répondait aux questions d'Abdourahmane Dia. Somalie, le chef de la diplomatie britannique Boris Johnson s'est entretenu ce mercredi avec le président somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed à l'occasion d'une visite surprise à Mogadiscio, qui est souvent la cible des attaques des islamistes radicaux Shebab. La grave sécheresse qui ravage actuellement la Somalie et le reste de la Corne de l'Afrique était au centre des discussions entre M. Johnson et le tout nouveau président somalien selon l'AFP. Et puis en France, François Fillon, le candidat de la droite à la prochaine présidentielle, officiellement inculpé par la justice française pour détournement de fonds publics dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse et de ses enfants. La convocation chez les juges mardi a eu lieu 24 heures d'avance sur la date que le candidat lui-même avait annoncée publiquement. Le politologue Jérôme Sainte-Marie estime que la procédure n'aura pas d'impact sur le maintien de François Fillon dans la course à la présidentielle.
Tout le monde avait anticipé que François Fillon serait mis en examen. Donc ce qui se passe aujourd'hui n'est pas aussi décisif qu'on le croit. Les centristes de l'UDI sont restés finalement dans la campagne de François Fillon, même s'ils ne sont pas très engagés. Et on s'est rendu compte qu'au plus fort de la crise, encore 18% des électeurs proclamaient leur intention d'aller voter pour François Fillon. Il a donc un socle très très large. S'il aura gagné quelques points, il pourrait de nouveau se qualifier pour le second tour. C'est finalement la grande surprise a été la solidité de ce socle-là. Il a perdu certes le tiers des intentions de vote depuis la fin des primaires de la droite, il y a désormais 3 mois, avec un socle 18%, il peut espérer être présent au second tour de l'élection présidentielle, très probablement alors face à Marine Le Pen. François Fillon sait qu'il peut compter sur une base de droite très classique, assez âgée d'ailleurs, mais qui ne l'abandonnera pas.
Le politologue français Jérôme Sainte-Marie.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.